Que le monde soit incertain, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que les chrétiens s'interrogent sur leur implication dans la vie économique et sociale, ce n'est pas nouveau non plus. Dans notre petit groupe de préparation, on a trouvé intéressant de jeter un regard en arrière et de vous proposer quelques écrits et récits du passé mennonite, en souhaitant que ces flashs sur ce qui s'est passé autrefois nous interrogent, nous interpellent, nous encouragent et nous inspirent. Alors ça vient de différentes sources et on pourra vous les donner si vous le souhaitez, mais on ne va pas s'arrêter à chaque fois pour ne pas allonger. Alors on commence avec deux citations de Menno Simon.
Les régénérés sont des enfants de paix qui ont converti leurs épées en charrues et leurs javelots en ébranchoirs et qui ne connaissent plus la guerre. Ils rendent à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Leur citoyenneté est dans les cieux et ils usent des biens terrestres, nourriture, boissons, vêtements, maisons, avec action de grâce, dans la juste mesure des besoins essentiels de la vie et pour le service bénévole de leurs voisins, selon la parole du Seigneur.
Tous ceux qui sont nés de Dieu ont reçu les dons de l'Esprit du Seigneur et sont appelés à être un seul corps en s'aimant les uns les autres en Jésus-Christ. Ainsi, ils sont bien préparés à aider leurs voisins, non seulement avec de l'argent et des biens, mais aussi en suivant l'exemple de leur Seigneur par leur sang et leur vie. Ils font montre de miséricorde et de pitié autant que possible. Aucun d'eux n'est réduit à mendier. Ils prennent à cœur les besoins des saints, ils reçoivent ceux qui sont dans la détresse, ils recueillent l'étranger dans leur maison, ils ne détournent pas leur visage des pauvres.
Nous continuons avec quelques extraits des écrits de Peter Riedemann, qui est un des leaders du mouvement outhérien au XVIe siècle. Les outhériens sont un groupe anabaptiste qui pratique la communauté de biens et qui existe encore aujourd'hui au Canada, principalement.
La communauté des biens. Tous les saints communient dans les saintes choses, c'est-à-dire en Dieu qui leur a tout donné en son Fils Jésus-Christ. Ils ne doivent donc plus posséder les dons de Dieu en propre, mais l'un pour l'autre, comme le Christ aussi n'a rien pour lui-même, mais tout en notre faveur. La communion des saints existe non seulement dans les choses spirituelles, mais aussi dans les choses temporelles.
Dieu, au commencement, n'a pas ordonné à l'homme de garder quoi que ce soit en propre, mais de tout avoir en commun. Mais l'homme s'est détourné de cela. Il s'est laissé attirer par les biens pour se les approprier. Il en a accumulé de plus en plus au point de s'endurcir, jusqu'à ce que, en amassant et en s'appropriant ainsi la création, il se soit tellement détourné de Dieu qu'il en a oublié le Créateur.
Celui qui se libère de la création peut prendre possession de ce qui est juste et divin. Quand il en a pris possession, que c'est devenu son trésor, il ne dirige son cœur que vers cela, et se dessaisit de tout le reste. Il n'accepte rien en propre. Il ne considère rien comme lui appartenant, mais comme étant la propriété de tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous affirmons que de même que les saints partagent les dons spirituels, de même doivent-ils bien davantage mettre en commun les biens temporels. Ce faisant, ils montreront qu'ils font partie de la communauté du Christ et qu'ils sont renouvelés à l'image de Dieu.
Parlons maintenant de l'impôt. Puisque l'autorité est instituée par Dieu, avec l'attribution de son office, l'impôt à payer est institué et ordonné dans ce but. En ce qui nous concerne, nous payons donc volontiers l'essence, les rentes, les péages ou quelques autres impôts. Nous ne répugnons pas à cela, parce que nous l'avons appris de notre Maître, le Christ.
Par contre, nous ne donnons rien pour la guerre. Quand l'impôt est réclamé en vue de massacrer et de répandre le sang, nous ne le faisons pas par affront ou par malice, mais par crainte de Dieu, afin de ne pas participer au péché d'autrui.
Nous ne refusons absolument pas de payer l'impôt à qui de droit et comme il se doit. Car Dieu a ordonné l'impôt en faveur des autorités qui le perçoivent et le prélèvent tous les ans. Mais qu'il s'ensuive que l'on ait à satisfaire tous les caprices des autorités, non. Car Paul dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû ». Il ne dit pas « ce qu'il veut et autant qu'il veut », mais « à chacun ce que vous lui devez ».
La fabrication des épées. Puisque les chrétiens doivent transformer leurs épées en les forgeant, il est encore moins question pour eux d'en fabriquer. D'autant plus que leur seule utilité est de massacrer, de blesser et d'exterminer d'autres hommes. Puisque les chrétiens ne pratiquent ni n'exercent la vengeance, ils n'ont pas à confectionner l'instrument qui est utilisé par les autres hommes pour exercer la vengeance et la destruction, sans quoi ils deviendraient participants du péché d'autrui. Nous ne fabriquons donc ni glaive, ni lance, ni arquebuse, ni d'autres armes du même genre.
Par contre, nous avons le droit de fabriquer ce qui sert à l'usage nécessaire et quotidien des hommes, comme les couteaux à pain, les haches, les pioches et autres outils de ce genre.
Le marchand. Nous n'autorisons personne parmi nous à faire du commerce et à vendre parce que c'est un trafic pêcheur. Nous ne permettons à personne d'acheter quoi que ce soit pour le vendre ensuite, comme le font habituellement marchands et commerçants. Par contre, si une personne achète quelque chose de nécessaire pour sa maison ou pour son métier, ou s'il vend ce qu'il a produit par son travail, nous considérons cela comme juste.
Voici seulement ce que nous considérons comme mauvais. Acheter une marchandise et la revendre immédiatement. La marchandise devient ainsi plus chère pour le pauvre et on lui enlève le pain de la bouche. Le pauvre n'est alors plus que l'esclave du riche.
Certains ajoutent. C'est une bonne chose pour le pauvre que des marchandises transitent d'un lieu à l'autre. Par là, on donne un prétexte à la pauvreté. En fait, ils recherchent continuellement et en premier lieu leur profit. Ils ne pensent aux pauvres qu'aussi longtemps qu'ils possèdent ne serait-ce qu'un centime dans sa bourse. Voilà pourquoi nous n'autorisons pas ce commerce parmi nous. Nous préférons dire avec Paul qu'ils prennent la peine de travailler honnêtement de ses mains afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin.
Les Mennonites hollandais ont été les premiers à bénéficier de la tolérance et rapidement, ils ont prospéré matériellement et ils ont partagé.
Quand les frères outhériens souffrirent de grandes tribulations suite à des faits de guerre dans les armées 1660, il était naturel que les Mennonites hollandais les aident avec largesse. Quand la nouvelle arriva aux Pays-Bas que les frères de Suisse étaient persécutés et chassés d'une manière outrageante en 1672, ils oublièrent leurs différences et rassemblèrent des fonds pour soulager les opprimés.
De même, la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV en France a poussé les Mennonites hollandais à de grandes œuvres de bienfaisance. La désolation causée par le passage des armées françaises dans le Palatinat vers la fin du XVIIe siècle fut encore l'occasion pour eux d'une contribution généreuse.
Afin d'administrer de si nombreuses requêtes, ils mirent sur pied, en 1719 à Amsterdam, la Fondation pour l'aide à l'étranger.
Mais leur prospérité a aussi été un piège pour certains, en tout cas de l'avis d'un de leurs prédicateurs, Peter Peters, qui prêchait ceci dans les années 1640.
Nous pouvons constater que les désirs mondains ont augmenté de bien des façons parmi les chrétiens mennonites. En effet, ils mènent un style de vie splendide et élevé, organisant d'énormes banquets avec toutes sortes de loisirs rendus possibles par l'augmentation des transports marchands internationaux et par le grand commerce.
Je pense particulièrement aux Mennonites qui, par le passé, dans leur premier amour, furent caractérisés par leur humilité, leur abnégation et leur simplicité, de telle manière qu'on pouvait faire la différence entre eux et la population en général. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de passer par une bonne réformation qui doit commencer avec nos prédicateurs et nos responsables, à qui a été confié le devoir de veiller. Si nous voulons de l'amélioration, ils doivent faire un effort sérieux afin d'être un exemple irréprochable et un modèle pour le troupeau, afin que non seulement leurs paroles, mais aussi leur vie entière communiquent le message « Suivez-moi comme je suis le Christ ».
Voici maintenant un récit concernant la communauté de Sainte-Marie-aux-Mines au XVIIe siècle.
Les deux frères Schmitt avaient dynamisé toute la communauté anabaptiste. À mi-chemin entre les domaines économiques et spirituels, ils ont accumulé dans leur bourse aux pauvres de nombreux biens qu'ils destinèrent aux miséreux du lieu, mais aussi, probablement, au soutien des frères suisses en difficulté. lors du décès d'un membre de la communauté, il était devenu d'usage de léguer une partie des biens pour les nécessiteux, et pas forcément pour les seuls membres de cette communauté.
Ces biens étaient gérés par Jacob Schmitt. Ce dernier fut pour la communauté de Sainte-Marie-aux-Mines leur Almosenpfleger, ministre des nécessiteux ou diacre. Adolf Schmitt a consacré une bonne partie de sa vie à porter secours, à aider et à intervenir auprès des autorités pour ses coreligionnaires en Suisse. Il s'occupa de l'acheminement des familles vers des lieux propices à leur installation, soit en Alsace, soit dans le Palatinat.
Les Alsaciens informèrent périodiquement les frères d'Amsterdam des événements récents dont ils avaient connaissance pour demander leur aide et leur intervention auprès du gouvernement réformé des Provinces Unies, afin que celui-ci puisse agir auprès de leurs homologues, notamment zurichois et bernois. L'Alsace et les anabaptistes qui y vivaient étaient en quelque sorte des intermédiaires entre les deux grands groupes d'anabaptistes, celui des Mennonites hollandais et celui des frères suisses.
Et maintenant, quelque chose de tout proche de nous, géographiquement et historiquement, les débuts du monde des oiseaux. Certains d'entre nous se souviennent de ce temps, ont peut-être été impliqués. C'est le MCC qui avait ouvert ce centre pour y accueillir des orphelins de la Deuxième Guerre mondiale. Et vers 1950, le besoin a changé et le MCC décide de se retirer. Que va devenir le monde des oiseaux ? Voici quelques écrits de Mary Byler, qui dirigeait la maison à ce moment-là, qui sont tirés de différentes lettres et comptes rendus.
Tu le sais déjà, depuis août dernier, il a été décidé de fermer le home. Je suis sûr que ma décision de quitter ce projet est une bonne décision. Et je suis aussi convaincu que fermer le home est la chose à faire. Même si, dans les derniers mois, nous avons dû avaler notre salive et serrer les dents pour maintenir le cap.
L'hiver s'est très bien passé. Tout le monde a été merveilleux. Nous n'avons jamais eu une si bonne équipe. À ce jour, toutes les monitrices sont mennonites. André Goll était avec nous du jeudi soir au dimanche et a tenu une conférence de collaborateurs avec des moments de prière très bien fréquentés et des réunions pour les enfants. Il prévoit de revenir régulièrement pour nous servir de pasteur. Les jeunes filles du Geisberg sont venues une soirée de 20h à 23h pour aider à repriser. Est-il juste de prévoir la fermeture de ce programme au moment où il a atteint sa pleine capacité de service selon le projet qu'on s'était fixé?
Le plus dur de tout, c'est que quelques enfants ont commencé à nous quitter. Gilbert et Gérard sont partis pour un home en région parisienne, mais ils vont revenir, et cela nous brise le cœur. Là-bas, pas d'amour, pas d'affection, rien que de la discipline.
Le lundi de Pâques, Hans Nussbaumer était ici. Alors qu'il nous visitait, son cœur a été touché par ces petits qui ont couru vers lui et l'ont appelé « papa ». Avant de nous quitter, il m'a demandé « Si nous achetions la maison pour vous, est-ce que tu resterais ?» Ce travail ne peut pas simplement s'arrêter. Que pouvais-je dire ?
Nous avons apprécié son intérêt et compris son désir sincère d'empêcher la fermeture. Mais nous ne pouvions imaginer ce que l'on pourrait faire. Et d'ailleurs, lui non plus ne le savait pas. Les Mennonites de France viennent d'acheter Valdoie et il reste encore beaucoup à faire là-bas.
Nous sommes partis en tournée pour la collecte d'œufs. Et partout où nous nous sommes arrêtés, la question de l'achat du Mont des Oiseaux a été évoquée. Personne ne voyait cela comme une chose impossible. Nous n'avions pas pensé pouvoir acheter Valdoie, nous l'avons fait. Si chacun le veut réellement, nous pourrons aussi acheter le Mont des Oiseaux.
Le 3 mai a eu lieu la conférence des Mennonites d'Alsace. Le sujet du Mont des Oiseaux a été évoqué et discuté pendant près d'une heure. À la surprise de la majorité, il n'y a pas eu une seule objection à poursuivre les investigations. Pas une seule objection. Pendant ce temps, nous continuons à préparer la fermeture.
Il y a 2 jours, un groupe d'environ 24 anciens prédicateurs et membres laïcs représentant la plupart des assemblées mennonites d'Alsace est venu visiter notre home. Ce fut une journée merveilleuse. Ces personnes ont eu une longue discussion, pesant le pour et le contre. Bien sûr, elles ne peuvent pas réaliser cet achat sans un prêt, sans une aide permanente de la part du MCC pour les prochaines années.
Le propriétaire était ici le même jour que nos visiteurs. Il a de suite baissé son prix parce qu'il voulait que les Mennonites lui achètent le home pour que le travail puisse continuer. En plus, il nous a autorisés à rester pendant l'été pour nous permettre d'avoir nos colonies de vacances et nous a assuré qu'il ferait tout pour nous aider à continuer.
Jusqu'à présent, les Mennonites de France n'ont aucune idée de la responsabilité dont ils veulent se charger. Ceci m'a beaucoup travaillé. Et je suis allé rendre visite à quelques-uns pour les aider à comprendre que l'acquisition du home n'est qu'un début. Tu sais comment sont les choses. Beaucoup d'entre eux pensent qu'ils peuvent acheter le home et qu'il continuera à fonctionner comme avant. Nous voulons leur faire comprendre que ce sera leur responsabilité et non plus celle du MCC. Cependant, nous ne voulons pas les effrayer. Ce que j'apprécie particulièrement dans toute cette affaire, c'est que chacun cherche sincèrement à connaître la volonté de Dieu.
Finalement, l'association fraternelle Mennonite achète la propriété du Mont des Oiseaux le 20 juillet 1951. Le 12 juillet 1952, et constituer l'association Home d'enfants du Mont des Oiseaux. Un texte intitulé « Entente AFM-MCC concernant le Mont des Oiseaux » approuvé ce même jour définit comment fonctionne l'articulation entre la nouvelle association, l'AFM, et le MCC pour le temps de la transition.
Ce n'était qu'un début, et nous connaissons la suite un peu mieux. Pour terminer, l'histoire de la cascade de l'Anabaptiste sur la Birse, qui est une jolie rivière du Jura suisse. Cette cascade porte ce nom parce qu'on raconte que...
Au commencement du XVIIIe siècle, se reposait là, sur un vieux tronc, un anabaptiste de la vallée de Moutiers, en barbe blanche, en habit de toile et en chapeau sans bouton. Il voit venir un inconnu dans le plus grand désordre. C'était un marchand ambulant et il s'aperçoit qu'il verse des larmes. Voici le court dialogue qu'ils eurent ensemble.
Qu'as-tu pour pleurer ainsi ?
Je suis ruiné. Des brigands m'ont tout pris. Il ne me reste plus rien.
T'a-t-on pris aussi le bon Dieu ?
Non.
Eh bien, ne dis donc pas « on m'a tout pris ». Tiens, tiens mon frère, voici ce que le bon Dieu me dit de te donner de sa part.
Il lui met sa bourse dans la main et sans attendre de remerciements, il continue sa route et s'éloigne à grands pas.